Vous êtes sur RTL.
Vacciner, est-ce que ça doit être obligatoire? Aurélie, vous êtes infirmière, votre avis nous intéresse.
Oui, bonjour Pascal.
Bonjour Aurélie.
Bonne et heureuse année
et bonne
2021.
Année, effectivement. Hein,
voilà, alors oui, tous les soignants doivent se faire vacciner, mais non, ça ne doit pas être obligatoire. Je pense que s'il y a bien un corps de métier qui s'est rendu compte de la difficulté que posait la crise sanitaire, le coronavirus et tout ce qui s'ensuit, c'est bien les soignants. Et je pense qu'on est tout à fait apte à prendre cette responsabilité.
Mais pourquoi ce ne serait pas obligatoire? C'est ce qui m'intéresse. Pourquoi, selon vous, faut-il que ce ne le soit pas?
Parce qu'il y a un sentiment un petit peu d'infantilisation, de... Vous savez bien, nous les Français, on n'aime pas trop les choses obligatoires.
Il y a plein de choses qui sont obligatoires en France. Il faut un permis de conduire pour conduire.
Mais pourquoi
c'est obligatoire.
Pourquoi stigmatiser la profession soignant?
Parce que vous êtes au contact, vous êtes plus au contact des...
Le boulanger du village est au contact avec plein de monde aussi.
Bah, oui, non, pas de malades. Vous êtes au contact de malades.
Ah, pas de malades, mais moi, je ne suis pas forcément au contact des malades atteints de coronavirus.
Oui, mais il faut vous protéger, vous, aussi. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses.
Oui.
On a besoin de vous, d'abord. Donc, si tous les personnels soignants contractent la maladie, on n'a plus de personnel soignant.
Alors, je ne suis pas en train de dire que je ne veux pas me faire vacciner, bien au contraire.
Mais je voudrais savoir le fondement... Le fondement de l'argumentation, vous dites infantilisation, et je vous réponds oui, mais il y a plein de choses en France qui sont obligatoires.
Oui, mais la stigmatisation, les soignants, obligatoire sous couvert de si c'est pas obligatoire, ils vont pas le faire, oh là là, vous allez être en danger, les patients. Non, on sait prendre nos responsabilités, on a conscience.
Ça peut d'ailleurs rassurer aussi les patients, hein.
Ouais,
ça peut rassurer les patients qui savent que vous êtes vaccinés. Je me fais l'avocat du diable, Aurélie, là.
Oui,
bien
tout
évidemment,
à fait. Mais
je n'ai pas d'avis forcément sur ce sujet.
Il y a plein de professions qui sont en contact de plein de gens. Les travailleurs familiaux qui vont dans les familles les unes après les autres, c'est pareil.
Mais je suis d'accord avec vous, mais ce n'est pas un argument, les autres.
Eh bien oui, mais pourquoi plus les soignants que nous, que les autres?
Qu'on peut considérer que vous êtes plus au contact des malades que les autres. Vous voyez plus de malades que moi, j'ose dire, Aurélie. Moi, j'en vois pas beaucoup de malades. Enfin,
oui,
des malades avec de la fièvre, parce que je vois pas mal de malades, je vous rassure. Non, mais c'est intéressant. C'est parce qu'on est tous un peu frondeurs, insolents, gaulois, et on n'a pas envie qu'on nous dise quoi faire. C'est ça le fond,
c'est
peut-être
ça. C'est exactement ça.
Vous êtes attaché à votre liberté. Vous n'avez pas envie qu'on vous dise vous êtes assez grande pour savoir si vous voulez faire vous.
Exactement.
Je comprends.
Même si j'encourage mes collègues à se faire vacciner, et moi je me ferai vacciner sans difficulté quand viendra mon tour. Et voilà. Ça, c'est pas un.
C'est le problème de l'obligation.
C'est
le côté militaire un peu. Vous êtes obligé de faire ça. Oui. Peut-être qu'il y a certaines choses qu'on est obligé de faire, forcément. Merci. Ouais. Vous êtes libérale ou vous êtes à l'hôpital?
Moi, j'ai un peu un statut particulier. Je travaille pour un prestataire de santé qui forme les patients à l'hôpital et qui les suit à la maison. Donc, j'interviens aussi bien à l'hôpital qu'à la maison.
Hier, on avait dit, restez quelques secondes si vous voulez avec nous, parce qu'hier, on avait dit qu'on commencerait l'émission avec David, parce que David était intervenu à la toute fin de l'émission. Il n'avait pas eu beaucoup d'espace pour parler. Il est toujours avec nous, David. Bonjour.
Oui, bonjour. Je suis toujours là.
Voilà. Et hier, vous nous disiez qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui exprimaient un avis contraire au vaccin sur les antennes. Alors j'avais le sentiment plutôt que moi j'entendais beaucoup de gens qui étaient réticents. Donc vous revenez aujourd'hui et on va pouvoir poursuivre cet échange qu'on avait amorcé hier, David.
Oui, on avait commencé d'ailleurs à la toute fin de parler du fait de la résignation collective que je trouvais un petit peu importante, où les gens étaient prêts à accepter tout et n'importe quoi pour sortir de cette crise. Et un exemple éloquent, je trouvais, c'était Philippe Etchebest qui était intervenu il y a quelques jours dans une de vos émissions sur CNews, qui était prêt à accepter le passeport vaccinal pour pouvoir réouvrir les restaurants.
Mais pourquoi pas ?
Je trouve qu'on en est là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne prend plus assez de recul, on est prêt à accepter tout et n'importe quoi.
Mais ce n'est pas tout et n'importe quoi quand même. Pour aller, par exemple, aujourd'hui dans un pays étranger, il faut un PCR.
Oui.
Autrement, vous n'allez pas aux États-Unis, vous n'allez nulle part si vous ne vous faites pas, tester. Donc ça aussi, c'est, ça limite, par définition, vous limitez vos, votre liberté. Elle est attaquée, encore, votre liberté.
Oui, mais là encore, on a le choix de ne plus y aller. Alors que si jamais un jour...
Vous aurez le choix de ne pas aller au restaurant. Pareil. Non, vous aurez le choix de ne pas aller au restaurant si vous n'avez pas de passeport vaccinal.
Là, voilà, c'est une atteinte aux libertés, que je trouve un petit peu déplorable, puisque si on prend du recul, on se rend compte que c'est une maladie dont la létalité n'est pas si importante que ça, et on nous prive de nos libertés pour une maladie qui ne tue pas tant que ça, au final. Donc c'est là où je veux en venir, justement. On accepte tout, on accepte des mesures liberticides pour finalement... c'est cette résignation collective qui moi, me rend un petit peu dingue en ce moment.
Et je suis partagé parce que il y a des choses moi aussi qui me m'agacent fortement. Mais sur le vaccin, si le vaccin est une solution pour tous en sortir, j'ai le sentiment que ça peut quand même être une bonne voie.
Mais c'est une solution, mais ce n'est pas la seule solution. Comme je vous le disais, si on prend.
Pourquoi vous dites pas c'est la si ça sera la seule si tout le monde est vacciné là, l'épidémie elle s'arrête. Hein.
Oui, elle s'arrête, mais encore une fois, si on prend du recul et qu'on regarde les chiffres... par exemple, là, quand vous dites que c'est la seule solution pour que ça s'arrête, je ne suis pas complètement d'accord avec vous. Par exemple, pour le couvre-feu, vous l'aviez même dit vous-même sur votre antenne, on avait fait des analyses des eaux usées et on s'était rendu compte que la courbe commence à descendre 2 semaines avant le couvre-feu.
Non, mais...
Donc il n'y a pas forcément de corrélation entre confinement, couvre-feu et la fin de cette épidémie.
Il peut y avoir discussion, vous avez raison, sur couvre-feu, sur confinement, là on peut en parler pendant des heures. Mais en revanche, sur un vaccin, si tout le monde est vacciné, et si le vaccin est efficace, par définition, l'épidémie ne passe plus.
Bah, vous venez de le dire, si le vaccin est efficace, aujourd'hui on ne sait pas, même la HS le dit, on ne sait pas si ça empêchera la transmission, on ne sait pas si le taux de couverture, on ne sait rien. Mais finalement.
David, et après on va marquer une pause. Il y a 13 millions de gens en France qui sont fragiles. Fragiles, c'est les personnes âgées, comorbidité, obèses, etc.
Oui,
si tous ces gens sont vaccinés, nous sommes d'accord que ce sont ces gens qui encombrent les hôpitaux. Si tous ces gens sont vaccinés, ces gens n'encombrent plus les hôpitaux. Nous sommes toujours d'accord. Donc on peut retrouver une vie normale.
Exactement. Bah, voilà, vaccinons les gens à risque, les gens fragiles et les autres qui choisissent de se faire vacciner. Et puis voilà, arrêtons là.
La pub à 13h09. Merci en tout cas, David. Vous pouvez rester aussi quelques instants avec nous parce que Jean-Paul Ortiz, qui est médecin, ça va être intéressant tiens, de confronter David, un peu réticent, avec Jean-Paul Ortiz, président de la Confédération des syndicats médicaux français. Il va pouvoir vous apporter des arguments sans doute que je n'ai pas. Que vois-je en régie? Qu'est-ce qui se passe? Que vois-je? Qui est là? Qui est là?
Tadam!
Mais qui est là? Comment vous appelez-vous?
Vous parlez je pensais que vous parliez de Philippe Rey.
Philippe Rey est là
également.
Oh, je le salue, Philippe Rey.
La crème de la crème.
Mais qui est là? Greg Caradani.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Vous venez le 6 janvier, vous bossez.
Ah, écoutez, je ne vais pas vous raconter ma vie, j'ai été contraint de rester un peu plus en vacances.
Ah, écoutez, franchement, heureusement que Damien Béchiot n'est pas comme vous. Lui, il était
à pied
d'œuvre.
On peut compter sur lui, bien sûr.
Bon, bonne année, Grégory.
Bonne année, Pascal, bonne année
Amour,
à tous.
Amour, santé, bonheur, joie de vous retrouver ensemble. Il n'y a pas de cadeau?
C'est moi, humblement.
Je n'ai pas changé.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et Laurent Tessier que je salue.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Vos messages, vos réactions sur la page Facebook RTL. Les auditeurs ont la parole. Pour Jean-Michel, que les soignants se vaccinent contre la Covid-19 est un minimum. Même avis pour Christophe, médecin, infirmier. Oui, ils doivent se faire vacciner. Et je ne comprends pas, écrit Gabriel, celles et ceux qui sont méfiants. Alors justement, pour aider à vaincre la méfiance des Français, vous l'avez dit Pascal, plusieurs médecins, parmi lesquels Axel Kahn, Michel Simès ou encore Jean-Paul Ortiz de la Confédération des syndicats médicaux français, vont se faire vacciner devant les caméras tout à l'heure à 15h30. Bravo Lange Joël sur nos réseaux sociaux, il faut montrer l'exemple sinon on ne s'en sortira jamais. Pas sûr que cette communication soit très utile, écrit Patrick. Et de toute façon, conclut Thierry, avant d'inciter à la vaccination, faisons déjà en sorte d'avoir suffisamment de vaccins.
Alors David est réticent sur ce vaccin. Jean-Paul Ortiz est président de la Confédération des syndicats médicaux français. Bonjour Monsieur Ortiz.
Bonjour.
Vous entendiez sans doute David.
Ben effectivement, moi je comprends qu'il y ait des interrogations de la part d'un certain nombre de Français vis-à-vis de la vaccination, et je continue à penser que c'est auprès de leurs médecins traitants qu'ils trouveront les réponses à leurs interrogations, qui peuvent être légitimes. Nous sommes devant une prouesse technologique. Le vaccin a été mis au point très rapidement et il a été testé avec une sécurité et une efficacité tout à fait extraordinaires. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui, même si on n'a pas le recul qu'on a habituellement sur des vaccins comme le vaccin contre la grippe, par exemple.
Est-ce que si on est tous vaccinés, l'épidémie s'arrête ? Et j'ai l'impression de poser une question idiote, tant j'ai l'impression de connaître la réponse.
Non, il n'y a jamais de question idiote, Pascal Praud. Pour que l'épidémie s'arrête, les épidémiologistes disent qu'il faut environ 70% de la population protégée par vaccination ou parce qu'elles ont elles-mêmes fait la maladie et donc elles ont fabriqué des anticorps. C'est la cible qu'il nous faut atteindre et c'est pour ça que je pense qu'il faut rétablir cette confiance vis-à-vis de la vaccination pour les Français, puisqu'aujourd'hui, les enquêtes montrent que moins de 40% des Français sont prêts à se vacciner. Et ça, c'est catastrophique. On ne va jamais s'en sortir si on reste à ces chiffres-là.
Nous sommes d'accord. David, vous faites partie de ceux qui ne souhaitent pas se faire vacciner.
Non, et j'allais rebondir sur le fait que ma compagne, il se trouve que ma compagne fait partie également du corps médical, elle ne le souhaite pas non plus, et elle n'est même pas elle-même vaccinée contre l'hépatite B. Contrairement à ce que disait le professeur Sebag hier, lorsqu'il disait qu'il y avait tout un tas d'études qui démontraient qu'il n'y avait pas de corrélation entre la sclérose en plaques et l'hépatite B, c'est fou, il y a eu des milliers de personnes qui ont été indemnisées. Donc pourquoi elles ont été indemnisées si la corrélation n'a pas été démontrée ? Donc, et encore une fois, moi, je rebondis sur le fait que je ne suis pas anti-vaccin. Je dis juste que sur ce vaccin, lorsque votre médecin, là, à l'instant, disait qu'il était sûr, je ne vois pas comment on peut être sûr alors qu'il n'y a pas eu même pas de phase 4 et qu'on n'a pas encore de recul par rapport à ça.
Jean-Paul Ortiz vous répond.
Effectivement, nous n'avons pas le recul, je l'ai dit, nous n'avons pas le recul que nous avons sur les autres vaccins. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a des millions de personnes qui ont été vaccinées. Les études cliniques qui ont été faites pour ce vaccin et qui ont débuté maintenant, il y a plusieurs mois, on est à pratiquement 4 à 5 mois de recul, ont été faites sur 35 000 personnes vaccinées avec soit le vaccin Pfizer, soit le vaccin Moderna, qui sont pour l'un déjà disponibles et l'autre qui va l'être dans les jours qui viennent. N'ont pas montré d'effets secondaires notables, si ce n'est un petit peu de douleur, un petit peu de fièvre, comme ça peut se voir, y compris avec un vaccin antigrippal. Donc nous sommes quand même devant un vaccin extrêmement sûr au jour d'aujourd'hui. Bien sûr, il nous faudra suivre ça présentativement et ça va être fait, puisqu'il y a un système de surveillance qui est mis en place. Mais réfléchissons un instant. Est-ce que aujourd'hui on va continuer à vivre avec cette épidémie ? Est-ce qu'on va continuer à avoir plus de 60 000 morts en France et ça va augmenter de jour en jour ? La seule solution pour arrêter cette pandémie, c'est la vaccination. Et je crois que...
Oui, mais s'il y a des millions de David, on n'y arrive pas. Et c'est pour ça que... qu'est-ce que David... comment vous convaincre au fond, David ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait vous convaincre ? Par rapport au discours, par exemple, de M. Ortiz, et c'est très intéressant l'échange que vous avez.
Mais, au fond, je ne pense pas, parce que l'histoire et le cas présent ne m'incitent pas. Par exemple, vous me dites on a 4 mois de recul, mais pour l'hépatite B, on avait beaucoup plus de recul. Pour le Mediator, il s'est passé des années avant qu'on se rende compte que ça n'allait pas. Donc l'histoire et le temps, j'ai envie de dire, me donnent raison. Voilà. Et encore, lorsque vous dites que sans ce vaccin, on ne sortira pas de cette crise, non, moi, je pense que c'est une volonté du peuple. On n'a qu'à dire, bah, écoutez, moi, je veux prendre le risque de vivre, voilà, de sortir sans masque, de sortir sans vaccin. Et puis, bah, si je quitte à signer une décharge, je veux continuer à vivre. Et d'ailleurs.
Non, mais je peux entendre ces discours-là. Mais, Jean-Paul Ortiz, vous voyez que on a, aujourd'hui des gens comme David. En plus, on voit bien que David, pardonnez-moi, c'est un peu trivial ce que je vais dire, mais c'est pas un fou furieux, David. Il est cohérent, il est rationnel, il est simplement méfiant. Et il est sur ce sujet, on ne le fera pas changer d'avis. Et j'ai l'impression qu'il y a des millions de David, Jean-Paul Ortiz.
Exactement.
Donc comment on fait ?
Je Je peux entendre ces arguments-là. Je dis simplement que scientifiquement, ils sont faux, y compris sur le vaccin pour l'hépatite virale B. Je dis aussi deux choses.
Qu'est-ce qui est faux ?
Dans la vie sociale...
Qu'est-ce qui est faux dans le...
Il n'y a aucune corrélation entre la vaccination à hépatite B et l'apparition de sclérose en plaques. Ça a été définitivement scientifiquement
écarté.
Il n'y a pas aujourd'hui de corrélation. De toute façon, je dis simplement à ceux qui sont réticents que dans un certain nombre de cas, ça va s'imposer. Regardez les vaccins qu'il vous faut pour aller voyager dans certains pays. Vous ne rentrez pas en Guyane si vous n'avez pas le vaccin contre la fièvre jaune. Donc, je prends cet exemple qui montre bien qu'à un moment donné, la vie sociale se heurte à l'individualisme de chacun que moi, je peux respecter. Et la deuxième chose que je veux dire pour convaincre David, c'est que je l'encourage à prendre contact avec une structure d'hospitalisation et j'espère que c'est très difficile, mais j'espère qu'on lui fera toucher du doigt ce que représente aujourd'hui un patient atteint d'une Covid-19 dans un état grave. Parce que quand on voit ces patients en réanimation, quand on voit des patients jeunes qui malheureusement ont des difficultés lorsqu'ils font un effort pour respirer, etc., y compris quelques semaines après cette maladie de Covid-19, je crois qu'il n'y a plus de discussion.
Bah merci Jean-Paul Ortiz, merci également à David. Je pense que ce sera difficile de convaincre David, forcément, mais le débat existe et c'est ça qui est intéressant dans cette émission. Il est 13h19, on va le poursuivre ce débat, pas que d'ailleurs, puisqu'on parlera également de l'imprescriptibilité. Est-ce qu'il faut revenir sur... Est-ce qu'il faut changer la loi ? Est-ce que les crimes sexuels contre les mineurs doivent devenir imprescriptibles ? Voici une question intéressante qu'on traitera tout à l'heure. A tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Le vaccin, toujours, encore et toujours. Rachida est là, infirmière anesthésiste. Notre oui. Rachida, j'ai envie de dire.
Oui, bonjour Pascal, ça fait plaisir de vous entendre.
Mais ça fait longtemps que vous ne nous aviez pas appelé, Rachida, bonne année.
Bah oui, merci, bonne année, vous aussi, une bonne santé Pascal.
Bon, vous êtes déjà vaccinée ?
Alors écoutez, moi ça y est, enfin on a fait une liste hier à l'hôpital et la vaccination commence la semaine prochaine. Hein.
Bon, tous les soignants vont être vaccinés ?
Ah oui, les chirurgiens, les médecins anesthésistes attendent ça avec impatience, ça y est. Et puis... il y a, vers le 20 janvier, il y a un comité pour des questions-réponses par rapport au vaccin, si les gens ont des questions à poser.
Bon.
Voilà.
Vous pensez que la vaccination devrait être obligatoire pour les soignants ?
Écoutez, Pascal, j'ai écouté David, j'ai écouté l'infirmière qui est passée en premier, et j'ai écouté aussi le médecin. Alors moi, mon idée déjà est faite depuis longtemps. Écoutez, on a passé des mois difficiles, mars, avril, mai, juin. On n'attendait qu'une chose, c'est, on disait, le vaccin. Vivement qu'il y ait un vaccin. Et là, enfin, il y a un vaccin. Les gens sont réticents. Donc moi, je suis pour que le personnel soignant se fasse vacciner de façon obligatoire. Parce que s'ils ne veulent pas se vacciner, eh ben, à ce moment-là, ils ne devraient pas aller travailler afin de ne pas prendre le risque de contaminer des patients. Lorsqu'on a choisi ce métier, on l'a choisi en tout état de cause. C'est un métier à risque. On savait ce qu'on faisait. Et autre chose, David vous a dit que sa femme, je crois, est dans le milieu médical,
oui.
Ne s'est pas faite vacciner contre l'hépatite B. Elle ne peut pas travailler, c'est pas possible.
Mais oui, c'est effectivement, je suis d'accord avec vous. Je ne l'ai pas relevé, mais vous le confirmez, c'est obligatoire, effectivement.
Oui.
Je ne sais pas s'il est encore là, David, il est parti d'ailleurs, ou alors elle ment, mais vous avez raison, il faut être vacciné contre l'hépatite B.
Parce que moi, je peux vous dire une chose, je vais pas aller plus loin, mais l'hépatite B, moi j'ai un frère qui a la sclérose en plaques, donc c'est une maladie que je connais très bien. Et les gens qui ont fait une sclérose en plaques suite à un vaccin, il n'y en a pas beaucoup, c'est parce que c'est des gens qui étaient déjà prédisposés, qui avaient un gène. Donc on ne va pas refaire la maladie de la sclérose en plaques que je connais par cœur. Donc il ne faut pas que les gens nous racontent n'importe quoi. Et on mélange tout. Donc déjà, si la personne n'est pas vaccinée contre l'hépatite B, elle ne peut pas exercer dans les milieux de santé. Voilà. Ensuite, il faut dire que est-ce que le côté juridique, imaginez que vous avez des infirmières qui ne sont pas vaccinées et qui vont contaminer un patient. Qu'est-ce qui va se passer ? Il y a un principe de précaution. Donc moi je dis que là, la vague de coronavirus, les Covid vont peut-être encore augmenter, on va encore avoir des morts. Alors, et si la situation s'aggrave, comment est-ce qu'on va faire avec un personnel soignant non vacciné? Moi, j'accepterai pas qu'une personne me soigne alors qu'elle n'est pas vaccinée. Et David, je réencourage aussi David, le Covid. Moi, j'ai eu beaucoup de gens autour de moi qui sont morts du Covid, des proches et des patients dont on s'est occupé. Donc, quand on voit un patient qui est Covid et qui est malade du Covid et qui meurt après 4 semaines de réanimation, c'est incroyable. Les gens ne se rendent pas compte du tout de ce que peut donner le Covid. Et lorsqu'on guérit du Covid, ma nièce l'a eu, il y a le post-Covid. Elle est essoufflée, elle est toujours sans goût et tout ça. Donc moi, je pense qu'il faut rendre obligatoire ce vaccin.
Pour tout le monde ?
Pour le personnel soignant.
Ah oui, personnel soignant. Ah ben non, mais là, on est... D'accord. En plus, vos arguments s'entendent, bien sûr.
Et si on boude le vaccin, on aura plus de malheurs que de solutions chez les soignants. Mmh. On a un phénomène d'exemplarité. On doit montrer l'exemple.
Alors, moi, Philippe est là. Philippe qui va vous apporter peut-être la contradiction. Bonjour, Philippe. Vous êtes dans le produit médical.
Oui, bonjour, Pascal.
Vous entendez les arguments de Rachida. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Bah oui, et pareil, obligatoire d'un côté, et puis liberté de l'autre, au revoir. Donc je reprends un petit peu ce que disait l'infirmière. Déjà, il y a une mauvaise stratégie à la base, c'est qu'on aurait déjà commencé par proposer le vaccin à tous les personnels qui étaient de front, donc tout le personnel soignant, et donc commencer à vouloir vacciner absolument les personnes âgées, dans la mesure où les moyens n'étaient pas présents pour pouvoir répondre à cette demande de vaccination. Et puis la deuxième chose, c'est vacciner les personnels soignants. Oui, certains vaccins, comme vous disiez sur l'hépatite B, sont obligatoires pour faire cette application. Moi, je soulève une autre interrogation par rapport à ce vaccin. On fait signer un consentement éclairé pour les personnes qui décident de se faire vacciner avec leur accord. Or, les anciens vaccins qu'on avait, on ne signait pas de consentement éclairé. On signe un consentement éclairé lorsqu'on participe à un essai clinique. Là, j'ai l'impression, et c'est l'expérience qui fait ça, faire signer un consentement éclairé aux personnes qui se font vacciner, c'est les faire participer à un consentement clinique, c'est les faire participer à un essai clinique, mais généraliser. C'est-à-dire qu'on prend les personnes à faire ce vaccin-là, et puis derrière, on va étudier pour voir les réactions que ça va générer. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a mis sur le marché un produit dont on ne connaît absolument rien, on n'a pas eu le temps matériel de faire l'essai clinique jusqu'au bout, parce qu'il faut compter plus de 2, 3, 4 ans pour l'essai d'un nouveau produit qu'on met sur le marché avant son autorisation de mise en marché. Et puis là, derrière, on dit aux gens, bah, participer indirectement sans qu'ils se rendent compte forcément à faire cet essai clinique général. Là, il y a Monsieur Larcher qui, ce matin, le président du Sénat, a présenté aux émissions le document qu'il fallait faire signer. Il comprend 54 pages. Mais on marche à l'envers. Mais donc, en fin de compte...
Rachida, pour conclure sur échange.
Le monsieur parle du consentement éclairé, mais pas pour le personnel soignant.
Oui.
Bah écoutez, alors il y a deux poids, deux mesures.
Bah non, monsieur, je me suis renseigné, vous inquiétez pas, je suis au courant. En personnel soignant, on va pas faire un consentement éclairé, je suis désolée.
Alors c'est quoi, c'est pas pour les personnes âgées ? Ou pour les autres personnes qui ne sont pas...
C'est pour les personnes qui sont dans l'EHPAD. Merci Philippe, merci Rachida, merci de cet échange. Laurent Tessier.
Pascal, le teasing. Nous vous attendons sur d'autres sujets au standard au 3210. Un professeur sur deux s'est déjà auto-censuré en cours sur les questions religieuses selon une enquête IFOP publiée dans Charlie Hebdo. Un chiffre en hausse depuis 2018. Yannis Roeder, directeur de l'Observatoire de l'éducation à la Fondation Jean Jaurès, était l'invité de RTL Matin.
Je crois qu'il y a un problème de formation sur le fond. Si on s'auto-censure, c'est qu'on n'est pas sûr à la fois
de son enseignement,
mais surtout de la manière dont on peut aborder, affronter parfois des questions.
Vous êtes professeur, vous avez déjà été confronté à des problèmes de laïcité, vous sentez-vous suffisamment soutenu par votre hiérarchie, chef d'établissement? Comment gérez-vous toutes ces questions de religion? A-t-on laissé faire pendant des années? 3210. Vous avez été nombreux à témoigner au 3210 hier sur le sujet très difficile et grave de l'inceste. Les accusations qui visent le politologue Olivier Duhamel ont relancé un débat. Faut-il supprimer la prescription pour les crimes sexuels sur mineurs? Donnez-nous votre avis au standard. Et vous pouvez continuer de nous appeler sur l'une de nos questions du jour. Les soignants doivent-ils se faire vacciner contre la Covid-19? Jean-Paul Ortiz, le président de la Confédération des syndicats médicaux français, se fera vacciner avec d'autres médecins devant les caméras à 15h30. Il était votre invité, Pascal.
Je pense qu'il faut rétablir cette confiance vis-à-vis de la vaccination pour les Français, puisqu'aujourd'hui, les enquêtes montrent que moins de 40% des Français sont prêts à se vacciner. Et ça, c'est catastrophique. On ne va jamais s'en sortir si on reste à ces chiffres-là.
Qu'en pensez-vous? La vaccination doit-elle être obligatoire pour les soignants? Le standard est ouvert. En Galilée, suivez des yeux l'étoile du
cette année, vous ne m'avez pas fait ce que vous faites en décembre. Est-ce que vous êtes épicé à Enorman? Vous ne m'avez pas fait avec la galette. Est-ce que vous êtes frangipane ou brioche?
Brioche.
Vous êtes brioche, vous?
Bah, tout dépend des régions.
Alors, et on ne l'a pas brioche, proposé aux auditeurs, parce que c'est vraiment ce qu'on appelle dans nos métiers un marronnier, avec deux R et deux N, marronnier. Donc, effectivement, on ne va pas jouer à ça, même si cette question nous intéresse, par exemple. Vous
même
êtes
si
brioche.
Vous posez la question, mine de rien.
Non, parce que voilà, c'est chaque année. Mais en revanche, on peut écouter Sheila, parce que cette chanson n'a pas vieilli. Non. Savez-vous les trois prénoms des rois mages?
Melchior, Balthazar.
Il y en a toujours un.
Et Gaspard.
Et Gaspard, bien sûr. Et
évidemment, Gaspard.
C'était pour voir si vous aviez le dernier.
Et bah, oui, j'en ai.
Vous avez souvent la fève, Pascal Pont?
Non, je ne sais pas. Il est 13h30. En tout cas, on va marquer une pause. On va parler d'un sujet grave dans une seconde. L'inceste, et vous êtes les bienvenus. D'autant que Greg Carannoni est sorti de sa tanière.
Ah, je vais en entendre parler. Hein.
Mais non, mais le 6 janvier, vous êtes notre roi mage. Vous êtes arrivé en même temps, vous avez vu la lumière et vous êtes arrivé. Vous avez vu Les Rois Mages, d'ailleurs, le film avec les inconnus?
Non.
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 À tout de suite.
Merci.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Ce sera l'une des informations du jour, puisque ça vient de tomber à l'instant. Le vaccin de Moderna est approuvé par l'Agence européenne des médicaments. C'est le deuxième vaccin à être validé après celui de Pfizer. Nous avons donc deux vaccins désormais à notre disposition. Faut-il supprimer la prescription? Faut-il mettre un terme à la prescription pour l'inceste? Les accusations d'inceste qui visent le politologue Olivier Duhamel relance évidemment le débat, alors que le délai de prescription pour les crimes sexuels sur les mineurs a été allongé en 2018 à 30 ans. Des voix s'élèvent pour demander leur imprescriptibilité, en particulier pour l'inceste. 30 ans, ça permettait quand même de pouvoir aller rechercher celles ou ceux qui s'étaient livrés à ce type de crimes sexuels. On est avec Eric. Bonjour Eric.
Bonjour Monsieur Pro.
Et merci d'être avec nous.
Mais je vous en prie, mes sincères voeux à vous tous.
Et eh ben c'est gentil, Eric.
Nouvelle année.
C'est gentil.
Voilà. Eh bien écoutez, moi, je vais être très clair et concis. Je suis contre la prescription. Il ne devrait pas y en avoir. Parce que l'inceste, personnellement, pour moi, représente le pire des crimes. Voilà, le pire des crimes sur des enfants, c'est une horreur absolue. J'ai moi-même deux enfants qui sont grands maintenant. Mais voilà, c'est une abjection totale. Et alors maintenant, ça pose un problème. Il est bien évident qu'une dame qui voudra se retourner contre son père, qui l'a violée quand ce monsieur a 70, 80, 90 ans, qu'est-ce que va pouvoir faire la justice? Comment ça va se passer? Je ne sais pas. Mais c'est épouvantable. Voilà, c'est épouvantable, épouvantable pour les enfants. Ça les détruit. Les adultes qui seront demain seront détruits. C'est une horreur. Voilà.
Vous avez parfaitement raison. Hein, de toute façon, sur l'inceste et la pédophilie plus globalement, parce que on dit que c'est effectivement incestueux ce qui s'est passé entre ce qui se serait passé d'ailleurs entre Olivier Duhamel et celui que Camille Kouchner nomme Victor dans son livre. Mais on dit inceste, mais c'est de la pédophilie, puisque l'enfant avait 13 ans. Alors, quels sont les arguments de ceux qui imaginent que certains crimes doivent être prescrits? C'est le témoignage de la preuve, quoi, l'apport de la preuve. C'est-à-dire que 30 ans après les faits, aujourd'hui c'est 30 ans, donc si c'est imprescriptible... On passe 30 ans, donc 35 ans plus tard, vous avez un enfant qui avait à l'époque moins de 15 ans par définition, qui se retourne donc contre une personne, imaginons qu'il n'ait jamais parlé pendant plus de 30 ans, et la justice est confrontée à la preuve.
Absolument, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça
donc,
très, très
comment un juge d'instruction fait-il, puisque c'est parole contre parole, vous allez avoir une personne qui va dire « j'ai subi ça » et une autre, très certainement, qui va dire « non ».
Absolument, non, mais c'est extrêmement difficile et compliqué à définir pour un juge et pour la justice d'une manière générale. Ça rejoint un petit peu ce que je vous disais au départ.
Mais ça pourrait être symbolique aussi, on pourrait considérer que la société qui rend imprescriptible ce type de crime, même si elle sait que ça sera très difficile, pourquoi pas, à apporter la preuve en l'occurrence et à mettre en place, mais c'est un signe symbolique qu'on envoie dans une société.
Tout à fait, absolument. Absolument, je suis d'accord avec vous, M. Pro, c'est exactement ça. Parce que, voilà, je me répète, mais c'est un crime innommable, quoi. Franchement, moi, je veux dire, j'ai appris cette affaire hier matin, comme tous les Français. J'étais chez moi et j'en suis encore secoué parce que, et vous voyez, on peut se dire, ça touche tous les milieux intellectuels, sûrement ouvriers, sûrement de cadres, dans tous les milieux, ça se passe entre quatre murs, dans le silence absolu d'un enfant qui ne doit pas parler, qui a peur, qui est traumatisé, qui a face à lui quelqu'un qu'il connaît, de la famille, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Voilà. Alors,
Christine est là également. Vous allez pouvoir échanger avec elle. Christine qui habite Nantes, puisque Christine pense, j'ai le sentiment, comme Eric. Bonjour Christine.
Oui, bonjour messieurs. Oui, effectivement. Bonjour, moi, je pense que ce droit doit être imprescriptible. Effectivement, les preuves après peuvent faire défaut, et en plus de ça, le bourreau peut mourir 150 fois entre temps.
Oui.
Mais il n'empêche que il faut laisser à cette personne victime, à cet adulte, des chances quand même pour se reconstruire. Et puis permettre à la personne qui a fait ce crime d'être jugée devant les tribunaux. Je veux quand même dire une chose concernant l'affaire Olivier Duhamel. Ça n'est pas de l'inceste, hein, c'est de la pédophilie, parce que, me semble-t-il, la personne qui a été violée n'était pas un proche parent.
Oui, mais il avait autorité, il était marié, paraît-il que... Alors, je me suis posé la même question que vous, et on m'a répondu que, en l'occurrence, Olivier Duhamel était remarié avec Evelyne Pizier, qui était la mère donc de ses enfants jumeaux, qui avait 13 ans à l'époque. Mmh. Et sur le plan juridique, lorsqu'on a autorité sur les enfants comme il l'avait, on considère que c'est de l'inceste sur le plan juridique. Voilà ce qu'on m'a répondu.
Alors,
mais là où vous avez raison, c'est de la pédophilie aussi,
de toute façon,
si j'ose dire.
Oui, voilà, inceste voilà, c'est de la pédophilie. Moi, il y a une chose aussi qui m'interpelle, Pascal Praud, c'est que énormément dans cette affaire d'Olivier Duhamel, énormément de personnes étaient au courant de ce problème depuis des années. Mmh. Les familles sont quand même complices quelque part.
Complices, alors ça c'est intéressant ce que vous dites.
Il y a eu un manque, attendez, laissez-moi juste 30 secondes, il y a eu un manque de courage de la part des proches. C'est facile après de se justifier en disant ma fille a eu du courage ou ceci cela, mais les parents, enfin je veux dire, c'est son propre enfant qui est victime d'un bourreau.
Mais Christine, moi je me suis interrogée comme vous, et j'ai quatre filles. Bon, j'apprends que une de mes filles a été violée 10 ans ou 15 ans plus tard. Elle me dit, papa, je ne veux pas qu'on en parle, je ne veux pas que tu en parles. C'est ce qui s'est passé avec ce garçon, Victor, qui a dit à Bernard Kouchner, en 2010, lorsqu'une enquête a été ouverte, je ne veux pas qu'on en parle, je ne veux pas déposer plainte. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous écoutez la voix de votre enfant? Ou est-ce que vous passez outre la voix de votre enfant? Moi, me suis posé la question. Christine, vous avez peut-être des enfants?
Moi, j'ai des enfants. Et
qu'est-ce que vous faites si votre fille vous dit « je ne veux pas en parler »
Non, je passe outre. Je passe outre. Il y a une justice, Monsieur Pro. C'est quoi cet omerta? Et en plus de ça...
Non, mais c'est la voix de votre fille. C'est la phrase de Camus, ma mère et la justice, je choisis ma mère.
Oui, bien sûr que ça va être une brouille d'enfer vis-à-vis de son propre enfant, c'est évident. Mais d'un autre côté,
Non, mais chacun en conscience répond. Hein. Moi, j'ai pas jugé. Je sais ce que je ferais moi.
Moi aussi.
Je pense que je ne passerai pas outre la voix de ma fille en l'espèce.
Moi, je passerai outre. J'ai des scrupules, j'ai une conscience, je passerai outre. Je ne peux pas supporter que mon enfant subisse un crime semaine ou mois après mois et rester tranquillement dormir dans son lit. Quoi.
Si votre enfant, et c'est très intéressant ce cas-là, parce que ça a été le cas de conscience de Bernard Kouchner, si votre enfant vous dit Je ne veux pas que ça soit public. C'est pire pour moi. La honte est absolument terrible pour moi. Ça sera intéressant d'ailleurs. Je pense que Flavie Flamand, elle nous écoute sur ce sujet. Elle est venue hier intervenir. Moi, j'ai eu ce sentiment que les parents écoutent la voix de l'enfant en l'espèce lorsqu'ils apprennent cette nouvelle. D'abord, ils sont détruits, les parents.
La vérité surgit à tout moment. De toute manière. Alors, ils se sont tus, mais néanmoins, c'est quand même une sœur, enfin, je pense, qui a révélé le problème. Regardez pour l'affaire de Villiers. L'affaire de Villiers, ça a été, là, pour le coup, un inceste. Philippe de Villiers était au courant.
Mais là non plus, soyons prudents. Soyons prudents.
Tout le monde s'est tu. Écoutez, ça a défrayé la chronique pendant quand même.
Tout le monde. Comment dire, j'allais dire, on n'y était pas. C'est-à-dire que soyons prudents. Vous dites, il sait, etc.
Vous savez, c'est toujours pareil. Ça se passe dans des milieux, dans ce genre de milieux, que ce soit journalistique, que ce soit politique. Tout le monde se connaît, tout le monde se côtoie.
Enfin, je peux vous dire que tout le monde n'était pas au courant pour Olivier Duhamel.
Il y a
beaucoup de gens. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont fait des émissions avec lui, qui sont tombés de haut, pardonnez-moi. Ne pensez pas, Christine, que tout le monde se tient par la barbichette dans certains milieux, en sachant que tout le monde, que monsieur Olivier Duhamel était pédophile. Je vous assure que ce n'est pas le cas.
Non, mais certainement. Mais quand même, tout ce petit monde se côtoie, néanmoins.
Mais oui, mais... Moi, je côtoie plein de gens dans la journée, je ne sais pas ce qu'ils font chez eux.
Vous voyez.
Ça veut dire quoi, vous voyez?
On tombe de haut.
Bon, on est d'accord. Et restez avec nous, Christine, parce que c'est vraiment une discussion très intéressante, ça, que vous avez. Et je pense que, je le répète, le cas de conscience qu'a dû avoir Bernard Kouchner, j'imagine, quand il a appris ça, d'ailleurs. Camille Kouchner, dans son livre, dit sa première réaction, mon père a voulu aller casser la gueule, pardonnez-moi l'expression, elle est écrite comme ça dans le livre, à Olivier Duhamel. Et c'est, je le répète, celui qu'elle nomme Victor qui lui dit non, papa, ne fais pas ça, ce n'est pas le tempo, je ne veux pas, etc. etc. Après, qu'est-ce que vous faites? 13h43, tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Nous sommes avec Gilles qui écoute notre débat. Bonjour Gilles.
Oui, bonjour.
Et hier, on a eu parfois des témoignages de jeunes gens à l'époque qui ont subi un viol. Et vous avez aujourd'hui 59 ans, Gilles, et ça a été votre cas.
Oui. Oui, écoutez, moi, j'en ai jamais parlé à qui que ce soit, à part mon épouse. Au médecin qui me suit, ma psychologue depuis des années. Voilà, c'est encore une histoire de famille. Et puis, ça a commencé, je devais avoir 9 ans, et ça a duré environ 3 ans.
Encore et qui était votre agresseur ?
Mon oncle. Voilà, dans les années 70. Ça se passait chez lui, dans son sous-sol. voilà, il me prenait par la main, et puis on allait dans le sous-sol.
Et aujourd'hui, voilà. Votre oncle, il est vivant ?
Oui. C'est pour ça que j'aimerais que cette loi passe pour que ces personnes ne restent pas impunies, quel que soit l'âge qu'ils ont. Pardon.
Je vous en prie.
Quand ça remonte, ça remonte. Mais on peut ne pas y penser un certain temps, mais c'est des choses qu'on n'oublie pas. Et puis, dans ces années-là... il aurait été difficile, surtout dans une famille comme la mienne, de remonter du sous-sol en disant il m'a fait ça, il m'a fait ci, il m'a fait ça, quoi. C'était la loi du silence.
C'est-à-dire que vous n'en avez jamais parlé, dites-vous, sauf à votre épouse.
C'est-à-dire que votre malheureusement décédé au mois de juillet.
Vos parents,
mes parents. Mais mon père, je l'ai jamais connu. Ma mère, celle qui se fait appeler ma mère. Je veux même pas en parler parce que c'était une catastrophe. Voilà, il y a pas eu, il y a eu beaucoup de maltraitance dans notre famille et puis ça en plus. Voilà.
Et vous en avez parlé avec cet oncle une fois adulte ?
Ah jamais. Je me suis permis il y a quatre ans, mon épouse m'a payé un week-end à Dijon parce que c'est une ville que j'aimais beaucoup. Et puis, j'ai pas pu m'empêcher d'aller voir cette maison que je pourrais vous dessiner par cœur en quatre coups de crayon. Et puis, j'ai pris des photos. Un monsieur est sorti, très violent, en me disant j'ai prétexté que j'étais susceptible de vouloir acheter cette maison. Donc, je prenais des photos. Donc, il était très violent et je lui ai demandé s'il frappait de moi. Il m'a dit non, pourquoi vous êtes qui? Et quand j'ai cité mon nom, il est devenu tout blême et il est parti en courant.
Et c'était votre oncle?
Oui.
Et vous n'avez jamais porté plainte?
Non. Et c'est pour ça que... Ben non, parce que... Comment, je ne sais pas comment... c'est difficile de... aller raconter ça. Alors, j'en veux pas à qui que ce soit. Mais aller raconter ça une fois, puis il pourra certainement une deuxième fois, puis une troisième fois. Oui, j'ai 59 ans. Ça va faire presque 50 ans. Et ça me hante toujours.
Vous aviez des frères et sœurs?
Oui. Oui, ici, dans la famille.
Jamais. Vous étiez le plus jeune, peut-être?
Non, je suis le quatrième de six.
Vous n'en avez jamais parlé à vos frères et sœurs?
Mon frère Yves, oui. J'en ai parlé à lui. Enfin, lui m'a dit que... Il m'a dit, toi, c'est dans la famille des six, c'est toi qui as le plus morflé. Mais... parce qu'il y a aussi de la maltraitance. Mais voilà, lui courait très vite. Donc, ils n'ont pas eu le temps de le choper.
Et comment vous qualifieriez votre vie depuis 40 ans, 50 ans?
Bah, c'est toujours quelque chose qui vous hante. Hein. Vous n'en parlez pas. Ce n'est pas pour une question de honte, parce que je n'ai pas envie d'embêter les gens, mais ça me... Alors, la psy, bien sûr, j'en ai parlé, elle le sait, mais c'est quelque chose qui vous reste... J'ai oublié un laps de temps, puis la case du cerveau s'est rouverte et maintenant ça me pourrit la vie, quoi. Voilà.
Vous avez des enfants?
Alors, oui.
Qui ne sont pas au courant?
J'ai une fille qui est au courant, oui.
Et il n'y a pas un sentiment de colère?
J'ai mon fils aussi qui est dans le sud. Mais si, j'ai la colère.
Contre cet oncle qui est toujours vivant, par exemple, vous n'avez pas envie aujourd'hui que cet homme soit poursuivi?
Mais pardon de vous couper, pardon, mais on m'a dit de, on entend dire qu'il y a prescription. Moi je serais pour qu'on lève cette prescription, peu importe l'âge, parce que l'âge où les faits se sont passés, il n'était pas âgé. Donc il était bien conscient.
Mais on serait confronté à l'apport de la preuve, puisque de preuve il n'y a que votre témoignage.
Je pense que mon frère serait aussi capable de vous, comment dirais-je, de signaler, pas qu'il était victime, mais certaines attitudes très provocatrices quand on était, lui et moi, chez cette personne-là, puisque, je dirais, c'était pas ambigu, leur attitude à eux deux, ça les gênait pas devant nous, des gamins, mon frère a 4 ans de plus que moi, de faire ça sur la table, dans la cuisine, dans le salon, peu importe si on était là ou pas. Vous voyez, déjà, ils avaient un peu cet esprit. Bon, après, ils font ce qu'ils veulent, mais après, quand on était en famille, moi, ils me prenaient par la main et la première fois, je n'ai pas compris pourquoi j'allais au sous-sol.
Merci, Gilles.
J'aimerais simplement
merci
que...
Merci pour votre courage, parce que j'imagine que ce n'est pas facile de témoigner.
Ça vaut pour une vie, hein, oui. Moi je vous le dis.
Et on peut avoir.
Ma fille est au courant. Malheureusement, j'ai perdu mon épouse au mois de juillet, là. Voilà, elle le savait tout. J'ai tout raconté dans le détail. C'est la seule qui. C'est le détail. Voilà. Mais j'aimerais que cette prescription puisse être levée et qu'il n'y a pas d'âge pour payer de ses actes. Il faut assumer. Voilà.
On ne peut avoir que de la compassion. Mais non, on ne peut avoir que de la compassion pour votre témoignage, Gilles. Et...
Mais je ne suis pas le seul. C'est ce que je me dis à moi-même. On ne sait pas ce qui se passe derrière la porte quand elle est fermée.
C'est ce qui est effrayant, en fait, dans l'affaire Olivier Duhamel. C'est-à-dire que
on se disait
ça ce matin entre amis, personne ne connaît personne. C'est-à-dire que quand dans un milieu aussi sophistiqué, aussi intellectuellement élevé que le milieu dans lequel baigne Olivier Duhamel. On se dit, à tort d'ailleurs, à tort, que ce milieu-là, cette sophistication intellectuelle est peut-être une protection par rapport à une barbarie. Et on se trompe. La preuve.
Mais parce que c'est pas marqué,
et on se trompe.
Pardon de vous couper. Oui. Ce n'est pas marqué sur le front des gens. Vous savez, le fameux déjeuner que nous avons eu chez mes petits cousins qui habitent dans la banlieue de Dijon, la fois où on avait été pour ce fameux week-end que mon épouse m'avait offert, j'ai revu mes petits cousins et on a parlé de tout, de rien. On a parlé de tout, oui, de rien de la famille. Et que j'avais un oncle. Et à table, j'ai juste une petite anecdote. Ces gens-là me disent « Ah mais oui, mais on le connaît, votre oncle. Ah, il est... Ah, c'est un... Qu'est-ce qu'il est gentil. Il adore les enfants. »
Évidemment.
Ma femme m'a fait « Chut !» m'a mis la main sur la bouche et m'a dit « Tais-toi !»
Oui, mais c'est...
Elle m'a dit « Tais-toi !» Elle m'a dit « Tais-toi !» Je voulais pas gâcher le repas. J'avais pas vu mes petits cousins depuis très longtemps. Et ça a failli sortir. Elle m'a dit « Tais-toi ».
C'est terrible.
Elle a bien fait. Parce que sinon, j'aurais gâché ce fameux week-end où j'ai eu le plaisir de revoir mes petits cousins depuis très longtemps. Je pense qu'avec ses propos, ça aurait été dépassé, ça aurait tout gâché, quoi. Mais voilà.
Je sais pas si vous avez bien fait ou pas. Ça, je n'en sais rien. Je sais pas. En fait, je sais pas ce qu'il faut faire pour tout dire.
Personnellement, ça me gênerait pas à l'âge que j'ai. Excusez-moi de vous couper. Mm. Ça me gênerait pas à l'âge que j'ai, à 59 ans. Maintenant, j'ai perdu ce qui m'était le plus cher au monde, c'est-à-dire mon épouse. Maintenant, ça me gênerait pas si je pouvais aller porter plainte. Si on m'expliquait la procédure, j'irais porter plainte contre ce monsieur. Voilà.
Merci Gilles. Vraiment, merci.
Je vous souhaite une bonne journée et surtout une bonne année à tous.
Bah, c'est gentil. Merci vraiment de votre de la manière dont vous vous exprimez. Je pense que tous les gens qui vous ont écouté ont
avec
été,
beaucoup de j'espère avoir été clair et ne pas avoir c'est difficile. Merci en tout cas et bonne journée et bonne année à tous. Voilà.
Merci. Merci beaucoup Gilles, merci. Il ne reste qu'une minute, alors il y a beaucoup d'appels évidemment. Est-ce que, je le dis à l'ami Laurent Tessier, est-ce qu'on modifie un peu le programme? Est-ce qu'on écourte un peu la séquence qu'on doit faire avec M. Benjamin Hamar, qui est professeur d'histoire-géographie? Voilà, pour peut-être entendre encore un ou deux témoignages et on débordera sur notre séquence entre 14h et 14h30. Rida est là par exemple, Rida qui a dû écouter ce témoignage. Bonjour Rida.
Oui, bonjour Pascal, bonjour à tous vos éditeurs et bonne et heureuse année à tous. Alors, permettez-moi tout d'abord de dire que c'est pas évident de passer après le témoignage de Gilles, justement parce que je ne suis pas du même avis que lui. Donc je vais essayer humainement d'être assez pédagogue et de faire attention aux mots que je pourrais employer pour pas choquer ou pour ne pas être mal compris. Alors moi, vous l'avez compris, je suis pour la prescription des délits et des crimes en général. Et je le suis aussi particulièrement pour l'inceste. Pour diverses raisons. Les premières raisons sont pour une efficacité juridique et pour une sécurité juridique des individus. Je m'explique. L'efficacité juridique, elle permet à la justice de fonctionner correctement et c'est pour ça qu'on encadre dans des délais et dans le délai de prescription ou de forclusion les crimes et délits. On ne peut pas matériellement, humainement, amener quelqu'un à répondre de ses actes au bout d'un certain temps. Vous l'avez dit lors de vos émissions, au bout d'un certain temps, il y a un effritement de la preuve.
Rida, je vous coupe et on continuera tout de suite après le flash, parce que vraiment, on a pris un poil de retard. Je sais que c'est un sujet grave et que c'est pas agréable de couper les interlocuteurs comme ça, mais il faut que nous marquions une pause. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Il est 14h. Rida est toujours avec nous. Il poursuivra son argumentation contre l'imprescriptibilité des crimes sexuels dans une seconde. Mais c'est d'abord Olivier Bois qui revient pour le flash.
Et l'Union européenne, Pascal, qui valide à son tour le vaccin Moderna, qui est donc sur le même modèle ARN que le vaccin Pfizer. Nouvel espoir donc de pouvoir accélérer les campagnes de vaccination en Europe. Ce matin, un nouveau conseil de défense s'est tenu à l'Élysée. Jean Castex doit donner une conférence de presse demain à 18h. On s'attend notamment à ce qu'il confirme que les restaurants ne rouvriront pas le 20 janvier. On attend aussi d'avoir les premiers retours sur les conséquences sanitaires qu'ont pu avoir les rassemblements familiaux de Noël. En Grande-Bretagne, 60 000 cas ont été recensés et détectés hier en 24 heures. Chiffre record avec la nouvelle forme du virus plus contagieuse. Le pays qui se reconfine d'ailleurs, vous le savez, pour au moins 6 semaines. La course cycliste Paris-Nice doit se tenir du 7 au 14 mars. Le parcours a été dévoilé ce matin. Le col de la Colmiane sera bien au programme la veille de l'arrivée et les organisateurs rendront hommage aux sinistrés des vallées de l'arrière-pays niçois dévastés par la tempête Alex au mois d'octobre dernier. Le temps demain restera nuageux et gris sur une grande moitié nord, quelques éclaircies sur la pointe bretonne et sur les côtes de la Manche. Il y aura un beau soleil autour de la Méditerranée, sauf à Marseille. Quelques flocons là encore attendus sur un quart nord-est, notamment en Île-de-France. Les températures moins 5 degrés à Gap, entre moins 1 et 2 degrés partout ailleurs. Le quintet à Pau à l'instant, l'arrivée provisoire, 13, 3, 12, 7 et 10.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Nous parlerons dans un instant de la laïcité à l'école et des enseignants qui sont parfois livrés à eux-mêmes. Et c'est l'enquête de l'IFOP que révélait ce matin RTL. Un professeur sur deux s'est déjà autocensuré en cours sur les questions de religion dans le secondaire. Et on sera notamment avec Benjamin Amar, qui est professeur d'histoire géo à Créteil. Et ce sera passionnant de l'écouter sur ce sujet. Mais on va terminer avec le témoignage de Rida, qui lui est pour prescriptibilité, j'ai du mal à le dire, des crimes sexuels sur les mineurs. Pourquoi êtes-vous pour Rida ?
Parce que malheureusement, je trouve que on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est que, par exemple, sur un procès, prenons des actes d'inceste qui ont été effectués il y a quelques années. C'est déjà très compliqué d'apporter la preuve de tels crimes. Alors imaginez-vous, au-delà de 30 ans, de pouvoir démontrer cette preuve. J'ai le sentiment que, un, ce sera très compliqué, pour ne pas dire impossible, et à travers ce constat-là, je dirais que peut-être, imaginez-vous, quelqu'un qui a été réellement victime d'inceste, se retrouver devant un tribunal, devant une cour d'assises, où on lui dirait, écoutez, monsieur, les preuves, c'est sûrement vrai, mais les preuves ne sont pas assez probantes. Il n'y a rien, il n'y a aucun fait matériel qui peut nous prouver le crime que vous nous invoquez. Ben, ce sera encore un deuxième drame pour la victime. C'est pour ça aussi que, quelque part, on est obligé de prescrire les crimes et délits. Et d'autre part, il y a aussi un principe fondamental en droit qui est celui de la sécurité juridique des individus. On ne peut pas, dans une société où les gens et les individus vivent de manière collective, suspendre une condamnation au-delà d'un certain délai raisonnable. Et sauf erreur de ma part, la prescription commence à courir à partir de la majorité de la personne. Et que donc 18 plus 30 ans, ça fait 48, vous direz, pour une victime, ce sera peut-être jamais assez. C'est pour ça que moi, à travers ce constat, je dis que c'est pas sur la prescription des crimes incestueux qu'il faut travailler. C'est sur, par exemple, la non-dénonciation de tels crimes. Parce que la victime, si elle ne peut pas parler pour des raisons évidentes, mais les gens autour, et quelquefois, pour le cas d'espèce que vous évoquez depuis ce matin, la femme de certains, l'entourage adulte des autres, c'est ces gens-là qu'il faudrait plus
responsable. J'entends bien, Rida. Merci beaucoup de votre témoignage et merci pour votre argumentation. Dernier témoignage, et après nous changerons de sujet, je vous l'ai dit, puisque nous reviendrons à la laïcité. C'est Nathalie que je voulais entendre, qui est factrice dans le Rhône. Et votre fille a été abusée pendant 2 ans par votre ex-conjoint, Nathalie. Bonjour.
Bonjour.
Et merci de témoigner, parce que j'imagine la douleur qui est la vôtre.
Oui, de la colère, un peu de rage, beaucoup de douleur. Mais je voulais témoigner pour les victimes, en fait, pour simplement leur dire qu'il faut y aller, il ne faut pas avoir peur de cette libération à venir, même si c'est dur. Nous, on a passé 2 ans en procès. 2 ans où ma fille a dû répéter ce qui lui était arrivé.
Elle avait quel âge, votre fille?
Ça s'est passé entre 8 ans et 10 ans.
Et elle a témoigné quand?
Elle nous l'a dit à 10 ans.
Et ouais, donc elle a parlé.
Voilà, elle me l'a dit. Et ça a découlé toute la vie, toute une structure qu'on avait construite s'est effondrée en un instant.
Et vous l'avez cru, votre fille? Parce que parfois, oui, on voit des compagnes ou des épouses qui prennent le parti de leur conjoint ou de leur mari.
Voilà, tout à fait. Ouais. Bah non, moi, je l'ai cru. C'était dur, mais en plus, moi, je venais d'accoucher. Ma petite avait 4 mois. Donc, sa petite sœur, hein, la fille de son bourreau. Et ça a été vraiment un effondrement. Mais on s'est accrochés tous ensemble. Simplement pour vous dire que quand... Elle me l'a dit. Lui est devenu blanc, il s'est mis à vomir, enfin à avoir des réactions physiques très importantes. Et à partir de là, on savait que, enfin, moi, j'avais plus aucun doute sur quoi que ce soit. Et donc, il a fallu aller aux gendarmes, il a fallu avoir une procédure. Elle a duré 2 ans, cette procédure.
Et cet homme a été condamné?
Oui, il a été condamné. Pas grand-chose, hein. Vous imaginez bien, mais je voulais...
C'est-à-dire
très crûment, 1 an de prison avec sursis, 4 ans de suivi psychologique et 4 000 euros d'amende. Voilà.
Pour un viol sur une petite fille de 10 ans.
Voilà. Donc, mon avocate ne m'a jamais menti parce qu'elle a défendu donc des pédophiles. Et elle m'a dit que là où il a été jugé, il y avait 3 procureurs. C'est très cru, hein, ce que je vais dire, mais c'est ce qu'on m'a affirmé. Et on m'a dit, il n'y a qu'un procureur qui est dur avec tout ça et je ne suis pas tombée sur le bon.
C'était en quelle année, ça?
C'était en 2012.
Donc c'était il y a quasiment 10 ans. Donc votre fille aujourd'hui, voilà, elle a 20 ans?
Attendez, j'ai beaucoup d'émotions. Non, elle a 17.
Et elle sait comment elle va?
Ça va. Elle s'est vraiment bien remise. Elle m'a remerciée pendant des mois et des mois en disant merci, merci. Et nous, on lui faisait comprendre parce que j'ai d'autres enfants, hein, j'ai 2 grands garçons. Et puis ma petite dernière, et où il a fallu aussi passer au civil, donc pour pas qu'il ait de droit sur sa propre fille. Donc en ayant passé le pénal d'abord, parce qu'il faut
puisqu'il
prouver,
est le père, si j'ai bien compris, d'un deuxième enfant que vous avez eu avec lui.
Donc un seul que j'ai eu avec lui.
Bien sûr, voilà, le deuxième enfant que vous avez eu.
Voilà, tout ça.
Merci Nathalie de ce témoignage.
Voilà. Mais un espoir, juste dire que ma fille, elle va bien, elle s'est remise. Oui, c'est dur, on a passé par des moments qui sont terribles, mais faut pas y craindre parce que la libération elle est telle. Moi, je l'ai vue ne serait-ce que quand on a gagné le procès pour la petite qui n'est pas de droit sur elle. Elle s'est envolée, ses épaules sont, elle était plus courbée. Enfin, c'était vraiment impressionnant le changement.
Merci beaucoup Nathalie, vraiment merci de votre là aussi de parler aussi précisément, ce qui demande un courage. Comme toujours, merci beaucoup. On va marquer une pause. C'est difficile, évidemment, d'enchaîner et même de parler d'autres choses, mais c'est ainsi. La laïcité à l'école, les enseignants sont-ils livrés à eux-mêmes? On va être avec Benjamin Amar et Laurent Tessier va nous expliquer précisément les contours de notre futur débat. Tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Laurent Tessier, nous changeons de sujet. La laïcité à l'école.
Un professeur sur deux s'est déjà auto-censuré en cours sur les questions de religion. Une enquête IFOP vient d'être publiée dans Charlie Hebdo.
49% des profs le reconnaissent dans les collèges et lycées publics. C'est une proportion en hausse de 13% en 2 ans. Et c'est encore plus fort chez les profs de moins de 30 ans.
Un chiffre qui intervient 2 mois et demi après l'assassinat du professeur Samuel Paty. Yanis Roder, directeur de l'Observatoire de l'éducation à la Fondation Jean Jaurès, était l'invité de RTL Matin. Il a réagi à cette autocensure.
Je crois qu'il y a un problème de formation sur le fond. Si on s'autocensure, c'est qu'on n'est pas sûr à la fois
de son enseignement,
mais surtout de la manière dont on peut aborder, affronter parfois des questions.
Et quand on demande si le professeur Samuel Paty a eu raison ou tort de s'appuyer sur des caricatures de presse pour son cours sur la liberté d'expression, la réponse.
Un quart des profs interrogés n'approuvent pas son choix. Certains parce qu'ils estiment qu'il faut respecter la sensibilité religieuse des élèves, d'autres parce qu'ils ne se sentent pas armés pour contrer les contestations éventuelles, analyse la Fondation Jean Jaurès.
Et lors de l'hommage rendu au professeur, des centaines d'incidents ont été signalés dans les établissements scolaires, notamment pour apologie du terrorisme.
19% des enseignants ont affronté un incident ou faire un incident, de quelque nature que ce soit, durant l'hommage rendu à Samuel Paty. 19% des enseignants en général, 34%, c'est-à-dire un enseignant sur 3, a été témoin de ce type d'incident dans les établissements de réseau d'éducation prioritaire.
Alors, nous vous posons cette question. Les enseignants sont-ils livrés à eux-mêmes ? Avez-vous déjà été confronté à des problèmes de laïcité ? A-t-on laissé faire ? Que disait Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement au mois d'octobre ?
Il y a des années, peut-être des décennies, où notre pays, d'une certaine manière, a décidé de mettre ça sous le tapis. Voilà, je jette la pierre à personne, mais c'est un fait.
Que dire aux jeunes professeurs qui ont des craintes ?
Eh bien, je crois qu'il faut se tourner aussi vers ses collègues. Il ne faut pas hésiter à travailler en équipe pédagogique. Il ne faut pas hésiter aussi à travailler et à dire les réalités de ce que l'on vit.
L'hommage d'Emmanuel Macron à Samuel Paty peut-il changer les choses ?
Nous continuerons. Professeur, nous défendrons la liberté que vous enseignez si bien et nous porterons haut la laïcité. Nous ne renoncerons pas aux caricatures, aux dessins. Nous continuerons, professeur.
Enseignant, vous sentez-vous suffisamment soutenu par votre hiérarchie ? Vous êtes-vous déjà auto-censuré en cours ? Avec nous, Benjamin Hamard, professeur d'histoire-géographie à Créteil et membre de la CGT.
Et je le salue et je lui souhaite une bonne année, comme je souhaite une très bonne année à la CGT, Benjamin Hamard.
Ah, mais bonne année à vous, Pascal Pro. Et vos voeux pour la CGT me vont droit au cœur.
Mais évidemment, bien sûr. Est-ce que vous êtes déjà auto-censuré ?
Alors, non, moi, je ne me suis jamais auto-censuré. Les questions de liberté d'expression, effectivement, telles que la loi, telles que les textes nous l'indiquent, il est hors de question d'empiéter là-dessus. Après, quand on est face à ses élèves, on n'est pas en guerre, bien évidemment. On est dans une attitude de pédagogue. Et donc, ce travail de la pédagogie, il faut le faire. Bien évidemment, sans chercher à quelques moments que ce soit à choquer, mais à faire comprendre, à faire évoluer les mentalités. Et pour ça, il est hors de question de se censurer. Moi, j'ai déjà, mais je l'ai déjà dit sur plusieurs plateaux, j'ai déjà présenté, par exemple, les caricatures de Charlie Hebdo concernant l'islam, mais concernant aussi d'autres religions, concernant aussi d'autres sujets. Moi, je me souviens d'avoir fait une rétrospective sur Charlie Hebdo, mais qui remontait effectivement à la fameuse une au moment de la mort de Gaulle, par exemple, en expliquant aux élèves que le journal avait été interdit.
Non, mais il y a des thèmes qui sont plus sensibles que d'autres.
Oui, mais
vous êtes à Créteil, par exemple. Oui, Est-ce qu'il y a des thèmes aujourd'hui dans votre classe ? Vous êtes en lycée ?
Oui, je suis enseignant en lycée, tout à fait.
Bon, donc c'est seconde, première, terminale. Est-ce qu'il y a des thèmes ? Est-ce la Shoah, est-ce la colonisation française qui sont plus sensibles pour les élèves à qui vous vous adressez ? Est-ce que vous avez été témoin parfois de contestations dans votre classe qui pourraient nous éclairer sur ce sujet ?
Oui, alors après, des réactions d'élèves, bien sûr qu'il y en a eu. Moi, je me souviens notamment au moment où Dieudonné avait un certain succès médiatique, je me souviens d'avoir des élèves qui étaient fans de Dieudonné. Et donc, il avait fallu effectivement tenir la position, mais pédagogiquement parlant, et justement avoir un travail de prof. Je me souviens aussi au moment, j'étais jeune enseignant, au moment où les attentats du 11 septembre, dans les années qui suivaient les attentats du 11 septembre, il y avait des élèves qui, dès qu'on évoquait cela, disaient que c'était pas vrai, que c'était une invention, etc. Donc ce travail, bien sûr qu'il y a des sujets qui sont plus sensibles. Après, voilà, enseigner, c'est une passion. Et donc, bien évidemment, on n'est pas là pour s'auto-censurer. Et, alors, bien évidemment, je pense que le drame qui est arrivé à mon collègue Samuel Paty, incontestablement, et on le voit à travers cette enquête, a marqué les opinions. C'est indéniable, parce que il y a des collègues qui, à juste titre, se sont dit « Mais bon sang, oh là !»
On va pas risquer notre vie. Pour la liberté d'expression, et... c'est ça. On va pas,
bien sûr,
ça, de censure. On va pas risquer notre vie.
Alors, alors, c'est la liberté d'expression, mais il y a aussi tout ce qu'il y a autour. Parce que tout à l'heure, j'entendais quelqu'un, un intervenant chez vous, qui avait évoqué les questions de formation. La formation, c'est toujours utile. La formation, c'est toujours important, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que très très vite, d'abord, on s'est rendu compte que cet homme avait été donc décapité aux environs de l'établissement. Ça signifiait bien évidemment que la protection fonctionnelle avait été complètement ratée. Et on a su plus tard qu'il n'y avait pas de protection fonctionnelle. On a su ensuite, c'était pire. Et d'ailleurs, la famille de Samuel Paty s'est exprimée récemment. Et il y a eu des enquêtes, par exemple, de vos collègues du Point, qui ont montré qu'en fait, on avait envoyé visiblement des inspecteurs pour rappeler les règles de la laïcité à Samuel Paty. Et le scandale, en fait, à travers ça, on se rendait compte que Samuel Paty, et c'est ça, moi, qui m'a frappé, qui m'a blessé profondément.
Il n'avait pas forcément été soutenu. Alors, Raphaël,
Pas qu'il n'avait pas été soutenu. Mmh. Il avait été livré à lui-même. Hormis la chef d'établissement qui a fait ce qu'elle a pu, à partir de là, il s'est retrouvé pendant 10 jours dans une situation terrible d'isolement.
Parlons avec Raphaël, qui est professeur de droit peut-être a un avis proche du vôtre. Bonjour Raphaël.
Bonjour Pascal.
L'autocensure.
Meilleure année possible à tous,
Merci.
Tant que ce soit possible. Hein.
Merci. Alors vous intervenez auprès d'étudiants, professeurs de droit.
Alors moi, comme vous le savez, dans un amphi, j'ai quasiment le droit de dire ce que je veux. Mais je mettrai quand même maintenant un bémol, puisque j'ai une collègue qui, à Aix-Marseille, il y a 3 semaines, a été très fortement mise en cause. Mais elle avait quand même quelque peu dérapé.
Alors, qu'est-ce qu'elle avait dit?
Je crois qu'elle avait assimilé certaines concessions de l'islam, une sorte de sida de la société, quelque chose comme ça. Il y avait des choses.
Oui, effectivement,
comprendre. Je me désolidarise totalement. On peut dire ce qu'on veut dans un amphi, bon. Mais il y a des choses.
Mais autocensure, c'est ça qui m'intéresse.
Moi, je peux comprendre. Alors, dans le supérieur, on n'est pas concerné. Mais je peux comprendre que dans certains établissements de zones sensibles, de Paris, de Lyon, de Marseille, des gens s'autocensurent suite à la mort de Samuel Paty. On peut le comprendre, parce qu'on ne va pas mettre sa vie en danger par rapport à des valeurs aussi importantes soient-elles. Mais je suis désolé, il y a une question de formation. Moi, j'ai été pendant 10 ans membre de la réserve citoyenne de l'éducation nationale. Pas une seule fois, vous m'écoutez, si une seule fois on m'a sollicité pour aller animer avec Michel Charras un débat dans une école primaire. Intérêt zéro. On est bien d'accord. Pas une seule fois on m'a sollicité pour venir animer des débats de formation d'enseignants. Parce que je suis désolé pour mes collègues du secondaire et du collège-lycée pour lequel j'ai plus grande sympathie. Mais la laïcité, la liberté d'expression, tout ça, ça ne s'invente pas. Ça n'est pas de leur domaine. Ça ne leur est pas enseigné. Je suis désolé. C'est du domaine du droit constitutionnel. Et j'allais dire, c'est mon job de mes collègues. Mais je peux vous garantir que l'ensemble de mes collègues, je les connais tous sur Clermont, il y en a, je crois, un ou deux qui sont sollicités pour intervenir sur les formations pour expliquer justement ce qu'est la laïcité, ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire, quelle est la liberté d'expression, jusqu'où ça va, jusqu'où ça ne va pas. Ça s'appelle tout simplement les libertés publiques. Déclaration de 89, préambule de 46. Donc autocensure, je peux comprendre. Mais je suis désolé, mais il y a donc un problème de formation. Tout ça ne s'invente pas. Tout ça ne s'acquiert pas en une journée. Il y a également un problème, je pense, des enseignants qui ne sont pas suivis dans leur hiérarchie. J'ai été 8 ans pion dans le secondaire,
je peux vous dire.
Il y a des chefs d'établissement qui se font dessus, excusez-moi l'expression, et une hiérarchie académique, c'est encore pire. Hein. Quels sont les recteurs courageux? J'en connais pas beaucoup, j'en ai vu certains. Hein. Et puis, il y a depuis maintenant, il y a le syndrome Samuel Paty, contre lequel vous ne pourrez plus jamais rien.
C'est intéressant ce que vous dites, Raphaël.
Je parle des zones sensibles, hein, Pascal.
Que vous disent, Benjamin Hamard, vos collègues, justement? Est-ce que vous sentez... Alors vous, je vous connais, vous êtes courageux, vous êtes engagé, vous êtes un homme de bonne volonté, Benjamin Hamard, même si on peut contester, pourquoi pas, vos idées, mais personne ne pourrait vous reprocher votre engagement auprès des élèves, et on le sent dans votre personnalité. Mais tout le monde n'est pas comme vous, j'ai envie de dire, Benjamin Hamard. canard. Et tout le monde n'est peut-être pas aussi courageux que vous. Et puis tout le monde n'a peut-être pas envie de prendre des coups comme parfois vous en prenez parce que votre nature vous permet de bien encaisser. Donc est-ce que chez vos collègues, vous sentez aujourd'hui parfois de la résignation et pourquoi pas une forme de prudence qui peut aller jusqu'à l'autocensure ?
Alors, en réalité, ce genre de situation, vous l'entendez pas forcément en salle des profs lorsqu'on est tous réunis, mais c'est plus dans les discussions en bilatéral autour d'un café que vous allez avoir, que vous allez entendre effectivement des choses de ce type. Mais et alors, bien sûr, l'intervenant précédent a raison. La question de la formation, elle est importante, et j'ai déjà entendu des collègues me dire, bon, ah, mais là, tu vois, toi, t'es prof d'histoire-géo, mais moi, c'est pas mon cas, et ces questions-là, je maîtrise pas forcément. C'est un élément. Pour autant, l'élément premier en ce moment, c'est clairement que certains collègues ont, et à juste titre, peur. Ils se sont dit, mais bon sang, en France...
Peur de qui ? Peur de quoi ?
France, mais peur de ce qui s'est passé, encore une fois, à l'automne 2020.
Oui, mais quand peur pour quoi ?
Mais écoutez, peur pourquoi ? Peur qu'il leur arrive la même chose qu'à Samuel Paty, tout simplement.
Mais parce que quoi ?
Parce que derrière, ce que je veux vous faire comprendre, et il a tout à fait raison l'intervenant précédent, finalement l'ADN de l'éducation nationale en France, c'est pas de vagues. Voilà ce qui se passe. Quand un enseignant en France est confronté à une situation où ça tangue, sur ce sujet-là comme sur d'autres, il a, et ça n'importe quel prof vous le dira, le sentiment d'être seul au monde, livré à lui-même. Et à ce moment-là, ce qu'on lui dit d'une manière ou d'une autre, c'est écoutez, il faut... qu'on essaye de faire en sorte qu'il y ait le moins de vagues possible. Et effectivement, moi j'ai été... on est sur RTL, là. Vous pourriez retrouver, Pascal Pro, une interview qu'on m'avait accordée à votre radio, alors à l'époque où j'étais pas du tout médiatisé, où j'étais un prof en début de carrière, où on avait dû effectivement à ce moment-là intervenir avec mes collègues parce qu'il y avait des élèves qui souhaitaient effectivement porter le voile au moment du baccalauréat. Bien. Et nous, à ce moment-là, avec la direction de l'établissement de l'époque, on leur avait dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il y a la laïcité, interdit cela. Et donc on avait eu des élèves qui présentaient des élucubrations constitutionnelles pour faire croire que ça c'était légal. Et il y avait le trouillomètre à zéro de la direction de l'établissement, mais aussi du rectorat à l'époque. Et il avait fallu que nous faisions du battage de manifestations et également médiatiques, et c'était dans ce cadre-là que RTL m'avait interviewé pour que Luc Chatel, vous voyez, ça remonte cette histoire, Luc Chatel intervienne pour dire effectivement que les enseignants et que donc personne ne porterait le voile dans un lycée public au moment du baccalauréat. Eh bien, ça vous montre qu'en réalité, qu'il s'agit de défendre la laïcité ou d'autres sujets, les profs travaillent sans filet. Elle est là la question.
Et
j'écoutais, je terminerai là-dessus.
Oui, parce
j'écoutais
quand même
l'intervenant, l'intervention qu'on a eue au moment de Samuel Paty de toute l'aéropage de la Macronie avec des accents grandiloquents. Le problème, c'est que dans le réel, c'est une autre musique.
Bon, Fouad est avec nous, Fouad qui est enseignant et très souvent il nous appelle de Strasbourg. Notre débat qui m'intéresse, c'est pas tant est-ce que vous êtes soutenu ou pas, même si c'est une conversation qui peut être intéressante, mais l'autocensure. Vous-même, vous êtes avec des jeunes enfants, Fouad.
Oui, alors bonjour Pascal,
bonjour
à mon cher collègue Benjamin Amar. Moi je suis pas très représentatif parce que je suis en école élémentaire et finalement la problématique est peut-être moins prégnante chez moi. Simplement, moi, mon sentiment, c'est que l'autocensure est autoréalisatrice. C'est-à-dire que, à partir du moment où on s'autocensure, on laisse beaucoup, beaucoup de place au censeur. Et je pense vraiment que c'est à nous, enseignants, de prendre en charge ces questions avec fermeté dans un esprit, justement, de professionnalisme, dans le respect de la laïcité et avec beaucoup de pédagogie. Mais c'est des questions dont il faut, qu'on doit pouvoir affronter. Parce qu'à partir du moment où, justement, on essaye d'éviter tel sujet parce qu'il serait problématique, alors on laisse installer justement
Nous sommes bien d'accord, mais cette autocensure, ce qui nous intéresse, c'est, on parlait tout à l'heure d'un prof qui a eu un souci sur la théorie de l'évolution. Alors il était peut-être prof de sciences nat, et tout d'un coup il y a une jeune fille qui se lève, qui a 15 ans, et qui lui dit écoutez, ce que vous nous dites là c'est possible, mais moi je ne suis pas certain que ce soit exact. Et elle imaginait que Dieu avait créé les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Le darwinisme n'était pas passé par là.
La distinction entre le domaine privé et le domaine public.
Donc qu'est-ce que vous faites quand vous êtes prof ? C'est ça qui est compliqué. Voilà. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes prof ?
J'ai eu le cas et justement j'ai expliqué que ça c'est une croyance et que la croyance... L'école ne s'en oppose pas.
Mais oui, mais vous dites la croyance, pour elle, c'est pas une croyance. La personne en face... Non, mais pas pour elle.
La religion est vécue comme une croyance.
Oui, mais vous vous mettez pas dans le cerveau d'une personne qui croit, si j'ose dire.
Non, mais bien sûr, parce que justement, moi je suis musulman, donc je connais les personnes qui croient. Je suis dans une famille où il y a beaucoup de pratiques et beaucoup de croyances. Mais la croyance, justement, ça n'implique pas le fait que ça soit vrai ou faux. C'est un autre débat. C'est-à-dire, nous à l'école, nous proposons la science. Les enfants, moi je leur dis à mes élèves, ils ont le droit de croire ce qu'ils veulent, mais c'est du domaine du privé. C'est ce qui se passe à la maison.
Bon, ben merci en tout cas Foued, et merci Benjamin Amar. Je vois que vous êtes en pleine forme, Benjamin. J'ai vu dans votre voix, dans la couleur de votre bois, que le combattant que vous êtes pour les libertés, mais aussi pour le combat syndical, est toujours présent.
Tout à fait, mon cher Pascal, tout à fait.
Bon, bah écoutez, vous, vraiment très bonne année à vous.
Très bonne année.
Et puis merci d'être intervenu. Il est quasiment 14h27. Greg Caranoni a donc signé son grand retour aujourd'hui. Et je vois que Flavie Flamand est là déjà, elle va entrer dans le studio. J'allais dire, c'est un des meilleurs moments de cette émission. C'est lorsqu'elle vient nous saluer, mais en même temps, l'une heure et demie avant est également très agréable.
J'imaginais que c'est parce que c'était le moment où vous quittiez l'antenne.
Mais non, justement, c'était un mélange. Mais nous aimons sa présence rafraîchissante. À tout de suite.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL.